Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour, alors aujourd'hui, notre émission ne sera pas, comme à l'habitude, consacrée à un livre. Elle sera consacrée à un musée. Alors pourquoi, me direz-vous, un musée ? Eh bien parce que tout récemment, à Montpellier, notre ville s'est dotée d'un magnifique équipement, une sorte de musée, un atelier musée très exactement, qui donc s'intéresse à l'art brut. C'est une initiative privée que l'on doit aux héritiers d'un artiste brut qui résidait à Montpellier, Fernand Michel, et ce sont donc ses deux fils qui ont décidé, à partir de sa collection et de la collection qu'il avait recueillie tout au long de son existence en échangeant avec d'autres artistes, ils ont donc décidé de monter, de manière tout à fait privée, je le répète, parce que c'est important, ils ont décidé de monter cet atelier musée. Alors c'est une association qui gère ce lieu, mais il est bon, avant d'entrer dans la visite que nous avons fait avec l'un des deux frères en question, mais il est bon peut-être de s'interroger sur ce qu'est l'art brut. Alors c'est une expression qui est née en 1945, et c'est Jean Dubuffet, lui-même artiste, pas art brut du tout d'ailleurs, qui en a donné une certaine définition. Alors voilà quelle est la définition de Jean Dubuffet. Nous entendons par art brut des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de cultures artistiques, dans lesquelles le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, est peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tiennent tout, sujet, matériaux, mise en œuvre, moyens de transposition, rythme, façon d'écriture, y tiennent tout donc de leur propre fond et non pas des pensifs de l'art classique ou de l'art à la mode. Nous y assistons à l'opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'atelier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. De l'art donc, où se manifeste la seule fonction de l'invention, et non celle constante dans l'art culturel, de caméléon ou de singe. On voit par là que Jean Dubuffet était assez sévère concernant les artistes que l'on qualifiera, en l'occurrence là, de traditionnels, puisqu'ils n'étaient pas bruts. Alors, il existe une grande institution d'art brut. En Europe, elle est située à Lausanne. C'est une sorte de mecque, un petit peu, de l'art brut. C'est une collection très importante qui a été créée par Michel Tevoz, critique d'art, et qui a écrit les fondements de ce qui concerne l'art brut en matière de muséographie. Vous pouvez vous y rendre, c'est un musée qui a pignon sur rue donc à Lausanne, qui est très important. Et puis depuis quelques années, eh bien l'art brut a acquis ses lettres de noblesse, pourrait-on dire, et on trouve ici ou là des collections et des équipements divers. Et donc parmi eux, eh bien, il y a ce musée d'art brut à Montpellier. Alors, quel est cet atelier musée et pourquoi cette idée d'atelier musée ? En fait, Fernand Michel lui-même, qui donc est l'artiste qui est à l'origine de cet atelier musée, avait ainsi qualifié son atelier. C'est un lieu qu'il occupait, dans lequel il passa une bonne partie de son existence, car il était d'abord relieur d'art, un métier où il excellait et où il s'est hissé d'ailleurs parmi les meilleurs ouvriers de France. Les principales commandes auxquelles il répondait émanaient des villes, des archives, de nombreux artistes et bibliophiles, privés ou publics. Mais à l'orée de sa retraite, cet espace devint l'épicentre de sa création artistique. Dès 17h, l'atelier fermait ses portes. On s'y donnait rendez-vous, mais alors pour autre chose que pour y assister à des actions de reliure. Et alors commençait un travail de créativité. Et Fernand Michel maniait encre de Chine, peinture, composition mixte, papier froissé, gravure sur carton, peintures abstraites, à la glycérine ou à autre chose, et à l'abri des regards indiscrets, la famille comprise d'ailleurs, l'artiste se colletait avec la matière jusque tard dans la nuit. Alors quand je dis la matière, il se trouve qu'il a élu une matière privilégiée, Et c'est en 1960, après avoir découvert une plaque de zinc oxydée en grappillant dans les vignes du Pic-Saint-Loup, qu'il se tourna exclusivement vers ce matériau pour réaliser toutes sortes de compositions, souvent teintées d'érotisme ou d'humour. Car Fernand Michel était un homme plein d'humour et qui aimait à s'amuser dans la vie. Il est né en 1913, il est mort en 1999. C'était un Vosgien et qui s'était donc installé dans notre région. C'était un grand lecteur, un amateur de poésie, poète, éditeur et peintre. Il a été un de ceux qui ont commencé à faire du livre d'artiste. Et dans ce petit atelier donc, de relieur à Montpellier, qui était rue Lunaret, pas du tout aujourd'hui l'entrée de l'atelier musée, mais son atelier initial, qui était donc dans une rue parallèle, exactement à l'opposé de l'entrée actuelle, eh bien, il a peu à peu créé une véritable œuvre. Il a échangé avec d'autres artistes et ainsi a créé une collection qui sert de base au musée tel qu'il a été conçu et réalisé par ses deux fils, Denis et Patrick Michel. Nous avons donc rencontré Denis Michel, qui est en quelque sorte revenu dans les traces de son enfance, puisqu'on a visité la maison qui a été conservée en l'état, la maison de, donc maison-atelier de Fernand Michel, le jardin dans lequel, qui sert de sas entre la partie ancienne et la partie moderne, et enfin la partie moderne, qui est un superbe bâtiment qui met en valeur l'ensemble de la collection d'art brut, avec la collection de Fernand Michel, mais aussi des prêts, des dons et des dépôts des grandes institutions d'art brut en Europe. Nous avons donc visité, avec comme guide, Denis Michel. Nous sommes dans le cœur de l'atelier du musée d'art brut, donc à Montpellier rue de la Cavalerie, dans la maison familiale de Fernand Michel, où Denis Michel, notre invité, est là, et donc dans la maison dans laquelle vous avez vécu.
Absolument.
Et dans laquelle Fernand Michel donc a œuvré. Rappelons qu'il était relieur d'art, et c'est à partir de cette activité-là qu'il a découvert un matériau et que peu à peu, il est devenu un artiste d'art brut, comme il est convenu de les appeler aujourd'hui, alors oui. Que l'appellation n'existait que très peu à l'époque.
Absolument, c'était dans les années 60. Certes, Dubuffet était déjà passé par là, puisqu'il avait déjà donné sa définition dans les années 50,
à peu près.
Et lui ne savait pas du tout ce que c'était l'art brut. Il a fallu que ce soit le galeriste Chave, qui était en relation avec Dubuffet d'ailleurs, la galerie Chave de Vence, pour qu'il sache qu'il faisait peut-être partie de ces fameux artistes bruts, d'art brut. Et donc, en faisant ce matériau, donc, il avait découvert le zinc.
Alors, pourquoi le zinc?
Ben, le zinc, l'histoire dit, lui-même l'a raconté, mais il y a plusieurs versions. Il serait tombé en extase d'un petit morceau de zinc qui est complètement... qui avait peut-être 80 ans d'âge, qui était terriblement attractif par ses couleurs. Et donc il a dit, tiens, il s'est dit, ça va, j'ai trouvé mon matériau, j'ai plus qu'à l'utiliser et à le transformer et en faire ce qu'il a commencé à faire, c'est-à-dire des petits formats. Qui ont bien marché d'ailleurs, et les Allemands se sont beaucoup intéressés à ces tableaux, et il a commencé à exposer, surtout en Allemagne.
Alors il a fait ça tout en poursuivant son activité de relieur.
Tout en poursuivant effectivement l'activité de relieur qu'il a fait jusqu'à sa retraite. La relieur, il a poursuivi jusqu'à sa retraite. Puis ensuite...
Il avait conscience de l'importance du versant artistique, on va dire.
Non, pas du tout. Je crois qu'il s'est fait plaisir. Je me souviens, l'histoire est quand même assez nette dans mon esprit. Quand on est revenu une fois de vacances en Alsace, j'étais avec ma mère, mon fils, etc. Il nous a dit, tiens, vous avez vu ce que j'ai fait là? Et il avait fait des petits tableaux en zinc. Et on est tombé aussi, nous aussi, on lui a dit, mais c'est très bien. Donc il a poursuivi. Mm-hmm. Et puis il s'est mis à faire donc ses tableaux. Je vous dis, il a été petit à petit, en 60, il a été surtout reconnu par cette galerie qui lui a permis de poursuivre et d'être... De, On a commencé à en parler parce que quand on regarde un petit peu, il était dans les bouquins un peu spécialisés, Les Insolites en France. Donc, Les Insolites, Les Particuliers, Les Singuliers, etc.
Alors donc, si Fernand Michel n'avait pas existé, le musée d'Arbout à Montpellier n'existerait pas. C'est le cœur du projet.
Absolument.
Qui était de montrer ce qu'il avait réalisé tout au cours de sa vie,
voilà,
en confrontation avec d'autres. Mais oui. Dans la maison familiale que vous avez réaménagée, il n'y a que, ou presque, l'œuvre de
Fernand
Michel.
Absolument. Il faut dire que ça s'appelait déjà l'atelier musée. À partir du moment où il a déjà eu une petite aura dans le milieu, on lui avait dit, tiens, mais tu pourrais très bien, tu as un espace, tu peux recevoir n'importe qui, ça ne t'embête pas de recevoir les gens. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, il recevait un Américain, il se demandait d'où ça venait, un Anglais, un Allemand, surtout des étrangers. Très peu, très peu. Mais qui avait lu déjà les bouquins qui étaient sortis sur lui. Et donc, on avait appelé ça déjà l'atelier musée Fernand Michel. Et donc, lors de sa disparition en 1999, on s'est dit, tiens, il nous restait pas mal d'œuvres de Fernand. Et on a dit, on va lui rendre hommage, on va transformer la maison familiale en musée Fernand Michel. Puis on a dit, c'est peut-être plus intéressant, à partir du musée Fernand Michel, de montrer aussi ce qui se passe en France et à l'étranger. Et après tout, comme il était déjà un petit peu baptisé artiste brut, il était dans le mouvement Art Brut, ça nous a paru cohérent de faire donc un ensemble, Fernand Michel et collection d'art brut. Et pendant des années, pendant 7 à 8 ans à peu près, nous avons sillonné l'Europe, surtout l'Europe du Nord, de l'Est, pour trouver donc tous ces artistes, que l'on retrouve beaucoup, évidemment, déjà que le pape de l'art brut avait déjà trouvé, naturellement, et qui, dans la collection, je vous rappelle que la collection est à Lausanne, et nous avons un certain nombre, grande partie, que l'on peut retrouver au musée de Lausanne.
Donc c'est vous qui avez constitué la collection
initiale. Voilà, nous qui avons collecté. Alors, c'est très compliqué, c'est une somme de mécénat, de dons, de mécénat, et d'une petite collection particulière, familiale.
Donc,
il y a beaucoup de mécénats.
Donc l'ensemble, il y a donc la maison familiale dans laquelle nous sommes, et puis il y a le jardin, qui sert de sas un peu entre les deux univers, et puis on entre dans la partie plus moderne où sont présentés les autres artistes singuliers. Et bien on y va. Voilà, alors maintenant nous avons traversé le jardin, nous sommes dans la partie moderne, donc que vous avez entièrement bâtie. Alors d'abord, quel est le statut de ce musée ?
C'est associatif, c'est une association.
D'accord.
Et voilà, tout simplement.
Et donc, l'association qui gère le
qui
lieu.
Qui gère le lieu, tout à fait.
Mais je suppose que le bâtiment, c'est une SCI peut-être ?
Oui, c'est une SCI.
D'accord. Cette association, quand vous l'avez créée, est-ce que les pouvoirs publics ont été sollicités ou...
On a sollicité la mairie, c'est la moindre des choses, qui a vu ça d'un œil très favorable, et qui nous suit d'ailleurs, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Bon, maintenant, au niveau des subventions, on va essayer d'avoir quelques subventions, ce qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait... Un tout petit peu, on a eu quelques subventions pour démarrer. Mais au niveau de l'investissement, c'est nous qui avons assumé la totalité.
Donc c'est vraiment une initiative privée. C'est
une initiative complètement
privée. Due aux deux héritiers.
Aux volontés des deux héritiers.
De Fernand Michel.
Denis et Patrick Michel.
Et Patrick Michel, voilà. Alors, là, on est dans là où il y a des confrères, on pourrait dire, des peintres comme était votre père, avec des choses vraiment extrêmement variées. Est-ce qu'on peut serier un peu les différentes œuvres qui sont présentées ?
Alors, volontairement, on ne les a pas placées. Alors, d'abord, il faut dire qu'il y a à peu près, nous avons à peu près 650 œuvres et 250 artistes qui sont présents ici dans cette collection. On trouve à peu près tous les genres, que ce soit sur papier, que ce soit sur... Tous les supports sont permis, puisque dans ce domaine-là, Il n'y a pas de limite à l'imagination. Mmh,
mmh. Et on s'en aperçoit d'ailleurs.
On s'en aperçoit, j'espère, en tout cas. Oui. Les gens sont ravis en sortant, ils sont assez estomaqués. Pour la plupart, qui n'ont aucune idée de ce que représente l'art brut. Ils s'aperçoivent, tous nous disent parfois, tiens, je ne savais pas qu'on pouvait faire ceci ou faire cela. Ben oui, mais ces gens-là l'ont fait déjà un peu avant. Donc on trouve tous les supports. Il y a une imagination, il y a une débordante, il y a des couleurs extravagantes, il y a un humour décapant. Alors, nous avons dans cette collection les fondamentaux de l'art brut, qui sont suisses, allemands. Pour ceux qui connaissent l'art brut, on a des œuvres de Wolfi, des œuvres d'Aloïse, des œuvres de Crépin, des œuvres de Le Sage. Ça, ce sont des gens, ce sont des noms qu'il faut retenir quand on est dans le mouvement de l'art brut. Et puis une multitude d'étrangers, d'Américains. On a aussi une partie américaine qui se traduit plutôt par l'outsider, puisqu'on appelle cet art, les Américains appellent ça plutôt outsider. Que art brut, ça dit pas grand-chose pour l'Américain, bien sûr.
Oui, un peu à donc côté.
Ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, en tout cas, outsider,
ils
ne
sont pas dans le circuit.
Ils sont pas, c'est hors norme.
Hors norme.
Et là, on a véritablement une synthèse du mouvement art brut, si on peut appeler le mouvement, enfin l'art brut, un mouvement. Ce n'est pas une école, ce n'est pas un mouvement.
Alors, il y a des tableaux avec toutes les possibilités graphiques de la peinture, le crayon, le dessin, le collage, etc. On va dire en deux dimensions. Et puis on a aussi les mêmes tableaux avec des objets qui sont appliqués dessus. On a aussi des objets eux-mêmes à part entière. Enfin, toutes les dimensions sont sollicitées.
Sont présentes. On a le bois, on a des cabinets de curiosité, on a des... Il y a quelqu'un là, au Gros-Billard qui est très connu dans le monde de l'art brut qui fait des fusils avec presque des canettes de bière. Enfin, c'est complètement fou. Et puis on a aussi un très beau tableau avec des coquillages, pure merveille.
Magnifique, oui.
C'est vraiment un bijou. Et puis il y a d'autres choses beaucoup plus complexes.
Allez-y.
Qui naturellement sont à l'initiative de gens qui ont quand même eu quelques petits soucis dans la vie et qui viennent d'hôpitaux et de
alors voilà, oui. On va dire que
établissements psychiatriques. Voilà. Non, mais c'est quand même
au début
on disait que c'était l'art des fous. Donc c'est clair. Dubuffet lui-même le disait.
Aujourd'hui, c'est plutôt l'art
des marginaux, des
originaux,
des hors normes et de ceux qui vraiment sortent leur trip finalement. Ils ont quelque chose à dire.
Et alors c'est ça qui est extraordinaire.
Très personnel,
ils utilisent
absolument
tous les moyens pour le dire.
Tous les moyens, absolument.
Et donc avec beaucoup de détournements, c'est ça qui est. On a vu un tableau tout à l'heure qui est fait essentiellement avec
Il y a du bois flotté.
Des objets récupérés, des canettes.
C'est un petit peu la constante qu'on trouve d'ailleurs chez les artistes, la récupération et le détournement, ça c'est sûr. Dans bien des cas, et également chez bon nombre d'artistes, c'est la répétition. Et puis la minutie. La minutie, puissance. Puissance 50.
Un peu le caractère un peu obsessionnel.
Au
fond, il redonne vie à des matières qui auraient fini en forme de déchets.
Tout à fait.
Et ils les anoblissent d'une certaine façon.
C'est l'art de leur récupération bien avant.
Et de la sublimation de ces matières assez extraordinaires. D'ailleurs, dans votre jardin, il y a un petit tas de zinc. Vous me disiez qu'il ne faudrait pas que les gens croient que c'est une absence de nettoyage.
Un petit dépôt d'ordures, oui. C'est le matériau, l'occurrence de Fernand Michel.
Voilà.
Donc on a mis là pour montrer justement que le zinc est patiné par le temps et qu'il a utilisé simplement le matériau tel quel pour le sublimer, tout simplement.
Alors est-ce qu'il y a une œuvre en particulier, là, parmi celles qu'on a sous les yeux, il y en a beaucoup, que vous affectionnez particulièrement?
Il y en a beaucoup. Il y a l'œuvre de, je vous disais, donc, l'œuvre de ce personnage, qui est quand même assez étonnant, où l'on retrouve beaucoup de choses. Son titre, d'ailleurs, très, très parlant, le chef de tribu, M. Hamar, s'amuse à faire des têtes avec des coquillages, et on se croirait véritablement dans un pays... d'Inde, du Pacifique. On est ailleurs.
C'est à moitié un tableau et à moitié une boîte.
C'est une boîte.
Hein,
dans lequel
il a accumulé
les personnages.
C'est extrêmement brillant.
C'est brillant, c'est volontairement brillant. Et ensuite, il s'est attaché à vraiment colorer chaque élément, à lui donner des dimensions, à multiplier les personnages. Ça aussi, c'est une constante qu'on retrouve souvent dans les tableaux. Et parfois, il y a l'écriture automatique, mais il y a aussi des personnages de façon systématique qui apparaissent. C'est aussi la...
Et alors, quelquefois, il y a aussi des écrits. Hein, là, il y en a pas, on n'a pas immédiatement sous les yeux, mais oui. Il y a aussi un côté verbal.
Une volonté de faire passer un message, en tout cas le message très personnel, du moins.
Oui, tout à fait.
soit une plaisanterie, mais encore que c'est très à la limite. Hein,
oui. Ou un état d'esprit.
L'humeur du moment.
Je pense à l'histoire de l'île. L'île intérieure qu'évoque un des artistes.
Personnage, oui. C'est fabuleux.
Qui voit les choses un peu à l'envers. Quoi, hein, et d'ailleurs, vous me disiez au début, avant qu'on ait cette conversation, que, au fond, c'est les surréalistes qui ont mis l'accent sur cet art-là.
Oui, bien avant Dubuffet, qui s'est d'ailleurs certainement aperçu que les surréalistes s'y intéressaient, parce que l'histoire est ainsi faite. C'est vrai qu'il y avait quelques surréalistes. Et Luard s'en est emparé, s'y intéressait, et donc...
Ce qui n'est pas très étonnant par rapport à leurs propres préoccupations.
Préoccupations également, absolument.
Alors donc, on a vu la maison, là on voit la collection, et puis il y a une salle d'exposition temporaire.
Voilà.
Où là, vous vous attachez à présenter...
On va présenter un artiste.
Un artiste.
Toujours dans cette mouvance, pour l'instant en tout cas. Après, évidemment, peut-être dans un deuxième cas, on essaiera d'essayer de trouver des gens... peut-être nouveau dans cet état d'esprit, en tout cas dans cet état d'esprit. C'est encore que c'est difficile maintenant, puisqu'il y a surtout, on parle surtout d'un mouvement des singuliers.
Mmh.
Hein, c'est un petit peu différent. Les singuliers ont parfois une approche... ils connaissent l'art brut eux-mêmes.
Oui, oui.
Ils ont eux-mêmes une approche très classique.
Presque théorique.
Presque théorique.
Ouais. Au fond, ils ont les singuliers, ils ont éliminé la folie.
Ils sont imprégnés déjà, eux, de culture artistique, ce qui n'était pas le cas des vrais artistes, enfin des artistes bruts, qui, eux, véritablement...
Alors actuellement, le peintre qui est exposé, l'artiste, on va dire.
L'artiste, c'est Taillandier. Curieusement, d'ailleurs, il ne fait pas partie des artistes d'art brut, mais il est extrêmement connu pour être dans cette...
Très proche de cette mouvance-là. Il y a un renouveau. D'où vient ce renouveau que l'on constate à travers quelques lieux, pas beaucoup, n'exagérons rien, mais un renouveau d'intérêt autour de l'art brut, justement?
Je crois que le temps a fait son... Justement, je lisais à ce sujet, vous savez que ce sont les 40 ans du Centre Pompidou.
Oui.
Et c'est vrai que le Centre Pompidou, quand on se met 40 ans en arrière... les Français étaient un petit peu rétifs face à l'art moderne, à l'art contemporain, et au sens large du terme.
Oui.
Alors vous pensez l'art brut, si c'était loin.
Oui.
Hein, c'était, ça vient. Donc je crois que tous les gens qui ont participé, les artistes contemporains, il y a quand même une histoire. Ces gens-là, eux-mêmes, ont découvert les artistes d'art brut. Et c'est peut-être eux qui ont fait sortir les artistes d'art brut.
Et c'est vrai qu'en termes...
Quand on regarde des gens, je suis sûr que des gens comme très connus actuellement, Soulages, s'intéressent à l'art brut, parce que il me semble que je lui avais posé la question quand il était venu à Montpellier, on lui avait dit qu'on montait un musée d'art brut. Je suis très intéressé, je connais, etc. Donc ça prouve que ces gens-là savent ce qui se passe. Et puis, on est aussi habitué depuis quelque temps à voir beaucoup de l'art nègre participer aussi.
Tout à fait.
L'art nègre.
L'art moderne. Lui doit beaucoup à l'art nègre.
Picasso lui doit beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'artistes qui doivent beaucoup à l'art nègre. Ouais. Les surréalistes également, en plus.
Oui.
Donc, tout soit fait que finalement, petit à petit, ces gens-là ont commencé. Et puis, aussi, la présence d'un certain nombre d'institutions, ce ne sont pas des institutions, mais si, puisque depuis à peine, enfin, ce n'est pas vieux, ça a 4 ans. Oui. Lille s'est enfin dotée, la France s'est enfin dotée d'un grand musée d'art brut, fruit d'une donation d'une collection particulière qui est remarquable. Il y avait aussi la fabuloserie dans la Bourgogne, d'ici, qui sont quand même des éléments importants, en tout cas au niveau France, pour inciter. Et puis, pas loin de chez nous, nous avons à Montoulieu, dans l'Aude, la collection Cyrès Franco, qui est là depuis quand même une dizaine d'années, qui certes était à l'époque dans une maison un petit peu ignorée de tous, mais il y avait quand même un certain nombre de gens qui... Et puis, très sincèrement... ça nous vient quand même un peu d'ailleurs. Les Allemands, les étrangers, on s'aperçoit dans ce musée, depuis que nous l'avons ouvert, nous avons beaucoup d'étrangers. Donc ce n'est pas par hasard.
Comme visiteurs.
Donc, c'est encore une fois, c'est quand même les gens, les anglo-saxons, qui connaissent mieux cet art avant la.
Alors il faut dire que la Mecque de l'art brut.
La Mecque de l'art brut, c'est à Lausanne. Alors évidemment. Il faut aller absolument à Lausanne pour voir l'histoire.
Mais enfin, on n'a pas besoin donc maintenant d'aller jusqu'à Lausanne, on peut venir à Montpellier.
Sans fausse modestie, on se situe à peu près dans le troisième établissement d'art brut en France. Il y en a un autre important aussi à Bègles, s'appelle la Création Franche, à Bègles, qui font de l'art brut depuis déjà aussi une vingtaine d'années.
Donc là, Bordelais, donc.
Voilà.
Et alors pour finir, vous avez également un petit point de librairie où là vous présentez une bibliographie assez conséquente,
assez large.
De tout ce qui a pu s'écrire dans le passé et aujourd'hui, avec des signatures quand même, Michel Devoz, Michel Ragon, qui est un grand critique d'art contemporain, beaucoup des Français et des étrangers aussi.
Et puis des monographies d'artistes.
Voilà. Donc on peut repartir avec les bras bien chargés.
Absolument.
Pour continuer la réflexion.
On peut même acheter quelques objets aussi.
D'accord.
Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vitrine où il y a un certain nombre d'objets qu'on peut acheter pour des sommes tout à fait raisonnables. On peut partir avec un petit souvenir.
Voilà, très bien.
Une vitrine.
Mais merci Denis Michel de nous avoir
Je vous en prie, c'est un plaisir.
On aura certainement l'occasion... Par rapport aux expositions.
Oui, on en fera 3 par an à peu près, 3 par an, 3 expositions par an. Donc voilà.
Remercions donc Denis Michel pour cette visite pas à pas de cet atelier musée que l'on trouve donc rue Beau Séjour. J'ai dit dans le reportage que c'était rue de la Cavalerie, mais c'est en fait dans le prolongement, c'est rue Beau Séjour, un magnifique bâtiment que vous ne pouvez pas manquer, qui est ouvert donc à partir du mercredi jusqu'au dimanche. Il est fermé le lundi et le mardi. Alors actuellement, il y a une exposition temporaire, que l'on doit à Yvon Taillandier, qui n'est pas à proprement parler un artiste brut, mais qui relève de la figuration libre. Alors du côté de Sète, la figuration libre, évidemment, on sait de quoi il s'agit, Dirosa, Combas, etc. Eh bien, Pierre-François également, que j'oublie souvent, et qui est peut-être l'un des fondateurs de la figuration libre. Eh bien donc, Yvon Taillandier expose durant 3 mois, donc janvier, février et mars, au musée d'art brut. Ce sont de grands formats avec quelques... Je crois qu'il y a 2 totems. J'en ai vu un et je ne me souviens plus. Je crois qu'il y en a 2, oui. Et qui présentent un très bon échantillon de son œuvre graphique. Voilà, c'est donc un très bon complément à ce que l'on peut voir dans ce musée d'art brut qui est absolument superbe. Alors... je voudrais pour terminer vous signaler simplement une revue qui s'appelle Le Matricule des Anges. Alors c'est une revue qui est conçue dans la région, qui a une diffusion nationale, qui est souvent consacrée à un auteur, plus un certain nombre de notes de lecture. Et ce numéro est consacré à Asli Erdogan. C'est un écrivain turc qui est actuellement en grand danger. Elle a été emprisonnée par le régime turc pour la liberté de son expression. Elle est à la fois poète, chroniqueuse, journaliste, romancière. C'est une grande romancière qui compte probablement un des écrivains qui compte, qui a le plus d'importance actuellement en Turquie. Et elle est donc, elle a été emprisonnée, elle a été relâchée, mais elle est toujours sous le coup d'une inculpation. Il y a une pétition qui circule en Europe pour demander sa libération et lui autoriser à s'exiler pour se mettre donc à l'abri. Et donc je vous trouve conseillé de lire ce numéro du Matricule des Anges qui explique à la fois son œuvre et les résonances qu'a son œuvre à l'égard de la situation en Turquie. Voilà, le Matricule des Anges, c'est le dernier numéro, celui de janvier, consacré donc à Asli Erdogan. Précipitez-vous et lisez ses livres. Ainsi s'achève ce numéro de Gulliver. À la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.